Orange, cyberdéfense.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. It's now.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le 2 février 2026 et aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet, un sujet brûlant, le paysage de la cyberguerre en Europe, vu à travers les événements de janvier dernier.
Bonjour. Oui, un mois de janvier particulièrement intense. Et pour analyser tout ça, on s'appuie sur des données vraiment uniques du Cyber Intelligence Bureau. C'est une division du Lab d'épidémiologie d'Orange Cyberdéfense.
Et ce qui est intéressant, c'est leur méthode, n'est-ce pas? On parle d'un mélange de renseignements en source ouverte, le fameux OSINT, et aussi de renseignements humains.
C'est ça. Une bonne partie de l'info vient de la surveillance de canaux publics, Telegram notamment.
C'est là que tout se passe, en quelque sorte.
Exactement. C'est une fenêtre directe sur leurs opérations. Les groupes y revendiquent leurs attaques, ils recrutent, et je pense que c'est important de le préciser d'entrée, notre analyse ici est purement factuelle, d'un point de vue cyber.
Oui, on respecte une neutralité absolue. Le but n'est pas de prendre parti, mais bien de décrypter ce qui se passe sur ce champ de bataille numérique.
Tout à fait.
Alors, commençons par le commencement, le contexte. Ces attaques, elles ne sortent pas de nulle part. Elles sont directement liées à des tensions géopolitiques bien réelles. Qu'est-ce que les données nous montrent?
Elles nous montrent que le cyber est devenu le miroir, presque parfait, des conflits mondiaux. Le plus visible, et ça ne surprendra personne, c'est bien sûr le conflit russo-ukrainien.
C'est presque un mécanisme de cause à effet, j'ai l'impression.
C'est exactement ça. Un pays annonce une aide militaire à l'Ukraine et, quelques heures plus tard, paf, ses infrastructures sont ciblées par des groupes pro-russes. C'est systématique.
On l'a vu avec des hashtags très clairs comme hashtag Hop Pologne, hashtag Hop United Kingdom, la Pologne, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Tous les pays qui soutiennent l'Ukraine sont dans le viseur.
Absolument. Mais ce n'est pas le seul point de tension. On observe aussi une activité liée au conflit israélo-palestinien. Un groupe comme Alixec, par exemple, qui communique beaucoup avec le hashtag #FreePalestine.
Et il y a aussi d'autres acteurs étatiques qui se manifestent. Je pense à l'Iran.
Oui, avec un groupe qui se fait appeler Vulture ou la Iranienne Cyber Armée, leurs messages sont très virulents.
Très anti-américains, anti-OTAN. Ils font même le lien avec des événements au Venezuela pour dénoncer ce qu'ils appellent l'hégémonie occidentale. D'accord, donc chaque crise a sa résonance numérique immédiate. C'est vertigineux. Essayons de mettre un peu d'ordre. Qui sont ces acteurs? Quels sont les noms qui reviennent le plus?
Alors, s'il y en a un qui écrase la concurrence en termes de volume d'attaques en janvier, c'est le groupe pro-russe Noname0156. Leur activité était frénétique.
Ils sont très bruyants, très visibles.
Extrêmement. Ils revendiquent des dizaines d'attaques, principalement des DDoS, du déni de service, et ils cultivent leur image. Ils vont jusqu'à partager des rapports de sécurité qui les classent comme l'acteur le plus menaçant. C'est une fierté pour eux.
Et à côté d'eux, il y en a d'autres, comme Darkstorm Team. Eux, ils ont un profil un peu différent, non?
Ah oui, et vous mettez le doigt sur un point crucial. Darkstorm Team est aussi très prolifique en attaque, mais ils ont une double casquette.
C'est-à-dire?
D'un côté, ils mènent des attaques politiques. Et de l'autre, sur le même canal, ils vendent des services de cybercriminalité. La frontière entre l'activisme et le crime organisé est en train de disparaître.
C'est une sorte d'activisme qui se monétise. Et j'ai l'impression qu'ils ne sont plus du tout isolés.
C'est la deuxième grande tendance, la structuration. On est loin du loup solitaire. Darkstorm Team a annoncé sa fusion avec un autre groupe, Cardinal, pour créer un front uni. Leur message était clair, quiconque est contre l'un est contre nous tous.
Une fusion, comme dans le monde de l'entreprise? Et ils collaborent aussi de manière plus ponctuelle?
Tout le temps. Noname0116 et Darkstorm Team se relaient sur des cibles. L'un attaque le matin, l'autre l'après-midi. Ils partagent des listes. Noname0116 a même lancé son propre projet, le D2OCIA Project, où il recrute des volontaires. Bref, ce sont de vrais réseaux.
D'accord. Des acteurs organisés, aux motivations un peu hybrides. Et leur cible alors? Concrètement, qui est visé?
La cible numéro un, pour le symbole, c'est le secteur gouvernemental. En Pologne, le ministère de la Justice. Au Royaume-Uni, le ministère de la Défense, des mairies. En Allemagne, l'Office fédéral pour la migration.
Des symboles de l'État, pour marquer les esprits.
C'est ça. Mais là où ça devient vraiment préoccupant, c'est quand ils visent les infrastructures critiques.
C'est la tendance la plus inquiétante, j'imagine.
Oui, parce qu'on ne parle plus seulement d'un site web hors service. On parle du fonctionnement réel d'un pays. Dans l'énergie, on a vu des attaques contre l'opérateur du réseau électrique polonais, PSE.pl, ou une grande raffinerie.
Et dans les transports aussi, la liste était longue.
Interminable. Des aéroports à Copenhague, en Pologne, des compagnies ferroviaires et même le réseau ferroviaire national britannique. Le message, c'est « on peut perturber votre quotidien ».
On comprend le qui et le quoi. Parlons du comment. La méthode la plus courante, c'est le DDoS, inonder un service pour le bloquer. Mais vous avez mentionné une évolution beaucoup plus alarmante.
Oui, et c'est vraiment le point saillant de ce mois de janvier. On voit une multiplication des revendications d'intrusion dans des systèmes de contrôle industriel, les fameuses CADA ou ICS.
Et là, pour être bien clair, on ne parle plus de site web.
Non, on parle du cerveau numérique qui pilote des objets physiques, les vannes d'une station d'épuration, les turbines d'un barrage. C'est le cyber qui touche le monde réel.
Et les affirmations de NoName0157 via leur DDoSia Project sont assez folles. Ils disent avoir accédé à une station de traitement des eaux en Pologne avec la capacité de modifier le processus.
Ils revendiquent aussi le contrôle total sur une centrale hydroélectrique en Italie, l'accès à des chaudières industrielles au Royaume-Uni, en République tchèque.
Contrôle total, ce sont leurs mots. Mais est-ce qu'on doit les croire sur parole? Est-ce que c'est de l'intox ou est-ce qu'ils pouvaient vraiment, je sais pas moi, ouvrir les vannes d'un barrage?
C'est toute la question. Vérifier ça est très difficile. Les victimes communiquent peu. Mais ce qui est certain, c'est que même si la moitié de ces affirmations sont fausses, le simple fait qu'ils ciblent ces systèmes, qu'ils développent ces compétences, ça représente un saut qualitatif majeur dans la menace.
On passe d'un risque numérique à un risque physique potentiel.
Exactement. C'est un changement de paradigme.
Et à côté de cette menace très concrète, les méthodes plus classiques continuent. La vente d'accès, la guerre de l'information.
Bien sûr. Le piratage de sites pour revendre des web shells, c'est le fonds de commerce de groupes comme Pharaoh Steam. Et l'économie souterraine autour de ça est florissante.
Ce qui nous ramène aux motivations. On a un cocktail assez complexe. Qu'est-ce qui les fait courir au fond ?
Pour NoName0156-6, le moteur principal, ça reste la géopolitique. Leurs messages sont très clairs. On attaque le Royaume-Uni parce qu'ils aident l'Ukraine. C'est un acte de guerre numérique soutenu par une forte idéologie nationaliste.
Mais pour d'autres, l'idéologie semble être un peu un prétexte.
Pour beaucoup, oui. L'appât du gain est un moteur tout aussi puissant. Et puis, il y a la recherche de notoriété. Il ne faut jamais sous-estimer ça. Ces groupes se construisent une marque, une réputation.
C'est un mélange d'idéologie, de business et d'ego, en somme.
C'est un bon résumé. Et en ciblant les infrastructures, ils jouent sur la déstabilisation psychologique. Ils veulent créer un sentiment de vulnérabilité. C'est une arme redoutable.
Alors, pour conclure, si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce que ce mois de janvier nous apprend sur l'état de la cyberguerre ?
La première chose, c'est cette convergence. La frontière entre l'activiste et le cybercriminel est devenue très très floue.
Le deuxième point, le plus inquiétant sans doute, c'est que les infrastructures critiques sont passées du statut de cible théorique à celui de cible de premier plan.
Absolument. Troisièmement, la structuration des attaquants. On est face à des entités qui s'organisent, qui fusionnent, qui collaborent. Ce sont de petites organisations.
Et enfin, on comprend que le cyber n'est plus un front parallèle. C'est une arme à part entière, intégrée dans les conflits internationaux.
C'est ça. Un outil de pression directe, visible et quasi instantané.
Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Peut-être une dernière question, une pensée à laisser à celles et ceux qui nous écoutent ?
Volontiers. On a vu toutes ces revendications, parfois invérifiables, d'accès à des systèmes qui contrôlent le monde physique. L'eau, l'électricité. Ça nous pose une question fondamentale. Demain, comment fera-t-on la différence entre un acte de protestation numérique, même agressif, et un véritable acte de guerre qui peut avoir des conséquences physiques désastreuses ? La ligne est de plus en plus trouble. Et la vraie question, c'est : nos sociétés sont-elles prêtes à faire face à cette nouvelle ambiguïté ?
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. We'll be talking about it on this channel very soon.
Orange, cyberdéfense.